foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir, avec Clotilde Ravignan. Merci Clotilde de venir dans cette radio que vous connaissez un petit peu. Et vous êtes anthropologue du fait cultuel et culturel, ou culturel et cultuel. Nous allons vérifier les précisions de ces termes. Et vous avez des convictions profondes depuis une thèse d'anthropologie sur le retour à la campagne ou sur la vie au village. Merci d'abord de nous dire. Alors, vous venez d'où ?
Bien, d'abord, merci de me recevoir. Et ben, je viens d'où ? D'où vient-on ? On vient d'un milieu familial, on vient de différentes expériences, on vient de ce que a pu faire une vie de, voilà, puisque je suis une vieille dame maintenant quand même, grand-mère, effectivement anthropologue, mais anthropologue sur le tard, puisque la vie, et surtout la vie de mon mari, François de Ravignan, m'a emmenée, j'allais dire presque de force, à l'époque.
À travers le monde.
À travers le monde. J'étais assez consentante pour l'Afrique, j'étais consentante pour l'Algérie, et j'étais très consentante pour une expérience après mai 68. Et là, c'est un peu moi qui ai poussé d'ailleurs. Mon mari n'était pas tellement consentant pour une expérience de vie en communautaire en Saône-et-Loire, et ensuite consentante pour revenir à Toulouse, cela nous rapprochait de nos familles, mais pas consentante du tout pour aller m'enfermer dans un petit village au doigt.
Oui, parce que François Ravignan est un agronome qui a beaucoup travaillé sur les questions du développement rural. Et alors, le Cameroun, ben, c'est déjà par là qu'a commencé votre vie commune.
Oui. Alors, le Cameroun, c'était pour aider effectivement des planteurs de cacao et de café à s'organiser et pour qu'ils soient relativement autonomes entre leur production et la vente. Il y avait toujours des Grecs qui se mettaient entre les deux.
Intermédiaires.
Des intermédiaires et qui privaient de revenus quand même assez conséquents les producteurs. Et François a eu aussi comme souci. Maintenant, ça m'amuse de penser qu'à l'époque, tout le monde se moquait de lui, mais disait, moi je m'occupe des cultures vivrières, il faut que ces populations puissent mieux se nourrir. Ça a été un travail qu'il a fait avec des équipes de femmes. Voilà, pour qui savaient d'ailleurs très bien s'occuper de leur jardin. Il y avait quelquefois des conditions, des façons de faire, mais François a beaucoup appris de ces femmes et leur a beaucoup appris également.
Voilà. Ensuite, il a été nommé et il a réussi le concours de l'Institut National de la Recherche Agronomique.
Oui, ça c'était effectivement ce qui lui a donné à la fois une indépendance dans la recherche, qu'il a dû quand même, il a dû payer le prix un petit peu fort, parce que un peu atypique dans le monde de la recherche. Cela lui a permis quand même de s'installer justement dans un petit village au doigt, et ça lui a permis de rester très proche du monde paysan. Et c'était l'époque également où il y avait un retour à la campagne qui était amorcé déjà depuis les années 68-70, mais qui continuait à se poursuivre. Et tous les villages, ou beaucoup de villages au doigt, voyaient leur population augmenter. Il y avait certes une demande, mais souvent c'était des personnes qui venaient de la ville ou de l'étranger, avec un idéal certes, beaucoup d'utopie, et un désir de changer quelque chose à leur vie sans avoir toujours les outils pour le faire. Donc le travail de François a consisté à accompagner tous ces demandeurs d'installation à travers une structure qui existait au niveau national mais qui n'existait pas encore au niveau départemental. Il s'agit de l'ADEAR.
Et avec le sigle qui signifie une agence
pour le développement et l'économie locale, je crois.
Oui. Alors, actuellement, on est très sensible à ce que dit le pape François, Laudato aussi, que tout est lié. Mais à l'époque, le slogan « Mieux se nourrir ici pour vaincre la faim là-bas », c'était quelque chose d'assez révolutionnaire.
C'est pour ça que
ça apportait des fruits.
Tout à fait. C'est pour ça que François était tout à fait critique vis-à-vis du concept de développement, parce qu'il disait on ne développe pas de n'importe quelle façon.
Il y a des aides qui sont des cadeaux empoisonnés.
Exactement.
Qui créent du chômage.
François a toujours été extrêmement sensible à ça, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, il disait on ne peut pas bien connaître ce monde paysan si on n'habite pas avec lui, et si on ne vit pas de la même façon, en proximité. Voilà, d'où notre installation. Et à partir de ça, moi, je devais quand même trouver ma raison d'y être aussi. Ça a été un peu compliqué, mais néanmoins, ça s'est fait par le biais d'une population que je voyais installée dans le village à côté, un peu plus important. Il y avait une communauté de femmes maghrébines et ayant habité en Algérie, sensible au tissage et sensible aux expressions artistiques, qui vont avec le tissage, je me demandais si je ne pouvais pas recréer quelque chose. Il y avait malheureusement trop peu de maghrébines dans le village à côté, mais assez vite, j'ai pu participer à une expérience d'alphabétisation à travers justement la pratique du tissage. Donc j'ai fait mes premières armes dans une association pendant un an, et après j'ai monté un atelier de tapisserie à Carcassonne, qui s'appelait l'atelier du Trénel. Et j'avais fait un stage de 3 mois au Gobelin à Paris pour comprendre comment eux enseignaient la pratique de la tapisserie, me disant que c'est ça que j'avais envie de faire, qui correspondait très bien à une démarche artistique que j'avais, avec laquelle j'étais. C'est dans ma nature.
Un peu passéiste, ce travail manuel?
Non, ça a été la remarque que m'ont fait toutes les personnes desquelles je dépendais pour avoir des crédits. Et on m'a dit, mais vous faites faire la même chose à ces femmes. Elles restent confinées dans un atelier au lieu d'être chez elles.
Tradition.
Et il se trouve que ces femmes ont fait des... Nous avons fait ensemble une exposition à l'université de Toulouse.
Le Mirail à l'époque,
qui était
Jean Jaurès maintenant.
Le Mirail. Et nous avons déplacé un grand métier, et les femmes venaient à tour de rôle montrer ce métier, ce qu'elles savaient faire. Et il se trouvait que dans le même temps, il y avait un collectionneur de tapis qui habitait au Maroc. Qui présentait également tous ces tapis. Et toutes les femmes de l'atelier reconnaissaient l'origine des tapis en les regardant, puisque ces deux expositions se passaient dans le même temps. Et moi, faisant faire de la tapisserie, on faisait bien sûr de la géographie, on faisait de l'histoire, on faisait l'apprentissage des codes du pays dans lequel elles étaient appelées à vivre et où elles vivaient tout simplement. Et donc, je me suis occupée également de leur faire passer leur permis de conduire, c'est-à-dire de leur permettre de monter des dossiers. On faisait de l'alphabétisation. Enfin, c'est fou le nombre de choses que l'on a pu faire qui étaient tout sauf un confinement.
C'est déjà de la politique au sens noble du terme.
Tout à fait.
Comme au Cameroun, c'était la justice. Là, c'est la solidarité et le travail à plusieurs qui créent des liens.
Et ça a été On trouvait que l'atelier ne produisait rien. Les tapisseries, c'est vrai, avaient du mal à se vendre. Et nous faisions une grosse tapisserie tous les ans. Enfin, quand je dis une grosse, c'est une grande, plus exactement, sur lesquelles travaillaient les femmes les plus avancées. Et à ce titre-là, le Parti socialiste ou des représentants venant de Paris visitaient l'atelier du Trenel, parce qu'à l'époque, c'était assez novateur comme pratique. Ces représentants viennent à l'atelier du Trenel et je leur ai dit que en tant que représentant du Parti socialiste, ils ne pouvaient pas ne pas acheter et soutenir les actions de l'atelier du Trenel à Carcassonne. Bien sûr, m'ont-ils dit, mais on n'y manquera pas. Et en fait, au bout d'un an, je ne voyais rien venir. Et je les ai rappelés plusieurs fois en leur disant vous êtes engagés là-dessus oralement, mais moi je considère qu'une parole c'est une parole, donc je vous demande de me faire une commande officielle. Ce qui a été fait, et nous avions pris à l'époque comme motif de tapisserie un dessin qui avait été fait par un architecte d'un projet pour la ville d'Auroville en Inde, qui est une représentation en noir et blanc d'une spirale qui est composée de petits éléments et qui illustrait avec très très bien pour moi l'idée d'une autonomie, mais dans un mouvement, pour une œuvre commune.
Alors cette photo, vous l'avez reprise plus tard, mais on va en reparler.
Voilà.
Parce qu'il est le temps de venir avec les musiques qui vous ont inspiré. Et vous nous avez apporté une musique qui apaise et qui est également très significatif. Nous l'écoutons.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et ce soir, avec Clotilde Ravignan, vous êtes anthropologue, vous avez rédigé une thèse sur les innovations en milieu rural et les innovations culturelles et culturelles. Donc ça, vous allez nous en parler tout de suite. Mais d'abord, le choix de cette musique.
Alors, j'aime beaucoup Arvo Pärt parce que c'est une musique très méditative. À laquelle qui a qui provoque en moi une grande harmonie, une espèce de redressement. J'ai l'impression que, en l'écoutant, je sens que je suis un tiré entre le ciel et la terre. Voilà, pour moi, c'est une musique très importante, tout à fait contemporaine, mais à la fois tout à fait audible par...
Comme vous disiez qu'au Cameroun, lorsque vous assistiez à des obsèques, on sent les populations qui sont les pieds sur terre.
Et puis dans la terre.
Et le culte des ancêtres.
Voilà, tout à
fait. Dans la terre.
Dans la terre, c'est très important. Donc c'est une musique très incarnée.
Très bien. Et donc, avant cette pause musicale, vous nous aviez parlé du métier à tisser, mais on pense à Gandhi, parce que c'est hautement politique, et puis aussi de ce village avec une forme architecturale innovante, et ça rejoint l'association que vous avez créée après avoir rédigé votre thèse.
Alors, ma thèse, effectivement, porte sur toutes les formes d'innovation touchant une population qui est faite d'anciens du village, d'autochtones, et qui est faite aussi de jeunes arrivants. Les jeunes arrivants n'ont pas de pratique particulière, ils se situent tout à fait en dehors de l'église, néanmoins ils demandent une catéchèse pour leurs enfants. Et ils ne veulent pas que ce soit une catéchèse qui serait faite dans un cadre habituel que propose l'Église, c'est à moi qu'ils le demandent. Donc j'ai appris, effectivement, on a essayé de voir dans le village comment il pouvait nous faire voir ce qu'était le village de Jésus.
C'est-à-dire que la catéchèse, c'est les racines judéo-chrétiennes,
oui,
et la Bible, Ancien et Nouveau Testament.
Alors oui, donc on a parlé de la Bible comme un mythe. Et en fait, de la Genèse.
Un recueil de mythes, un recueil de poèmes.
Simplement, je me suis bornée avec des petits à ce mythe-là, au mythe de la création du monde.
Ça veut dire quoi, un mythe, pour vous ?
Pour moi, c'est l'intuition qu'a eu un peuple.
Une légende ?
C'est pas tout à fait une légende, c'est quelque chose auquel qu'on n'explique pas, quelque chose qu'on porte en soi.
Un mystère.
De l'ordre du mystère, mais il faut bien donner une explication, et par conséquent on va se raconter une histoire qu'on se racontera de génération en génération. Mais c'est une histoire, j'allais dire, qui donne certaines leçons. C'est-à-dire qu'il faut déchiffrer l'intuition de cette intuition au départ.
On hérite d'une tradition ou de plusieurs traditions.
Alors effectivement, on peut le voir comme ça, des traditions qui sont recueillies ou qui sont rejetées. Le monde rural rejetait certaines traditions, ne rejetait pas les valeurs du christianisme, ni des valeurs du monde de laïque portées par la République, pas du tout. Mais ce sont des gens qui sont venus pour avoir du temps, cette population jeune est venue là, on les appelle les néo-ruraux, ils sont venus pour justement vivre certaines valeurs. Donc l'une d'entre elles était le besoin d'avoir du temps et pour avoir une vie qui ait du sens. Donc ils voulaient prendre cette espèce de recul, que le besoin d'expérimenter également, le besoin de fraterniser également, le besoin de découvrir sans trop savoir, de changer quelque chose dans le monde, même si ça paraît très utopique, il fallait changer quelque chose. Donc en changeant avec cet ensemble de valeurs, il y a un certain nombre de personnes qui ont voulu se marier, par exemple, à la fois à la mairie, non pas obligé, parce qu'ils auraient pu se paxer, mais ils ont tenu à faire un mariage civil, mais en même temps qu'une cérémonie particulière se fasse dans l'église. Donc ils m'ont demandé de les préparer et d'organiser avec eux cette cérémonie à l'intérieur de l'église. Et nous avons eu beaucoup à réfléchir sur la forme que pouvait prendre ce rituel. C'est pour ça, ça rejoint le mot cultuel, rejoint bien et illustre bien cette recherche.
Tous les rites, en fait, actualisent ou réintègrent des mythes. Il y a sans cesse un jeu de va-et-vient entre la tradition et la modernité. Alors, ces rituels de mariage, ils ne sont pas civils, ils ne sont pas religieux, puisqu'il n'y a pas un prêtre qui est là pour recevoir le consentement des époux.
Oui, mais c'est moi qui ai reçu le consentement, étant donné que, en tant que chrétienne, donc prophète et roi, enfin selon l'ordre de Melchisédek, hein,
par le baptême,
et ben effectivement, j'ai procédé à ce type de cérémonie très respectueusement, en disant que moi je n'agissais pas en mon nom propre, donc je faisais bien attention à rester à ma place et de ne, voilà. Donc
vous n'agissiez pas non plus avec la mission comme un prêtre, de la même manière que vous organisiez des assemblées dominicales en absence de prêtres.
Oui, mais effectivement,
c'était pas hier, ça, c'était il y a quand même déjà un certain temps.
Il y a un certain temps, mais c'est pour ça qu'on a dit que cette paroisse ou cette communauté de chrétiens ou de non-chrétiens était une communauté particulière et les gens ne faisaient n'importe quoi. Et quand c'est vrai que l'Église, par l'intermédiaire des prêtres, a eu beaucoup de mal à reconnaître ce qui se faisait, alors qu'il y a eu vraiment de belles choses qui se sont faites. Mais moi, j'avais le souci de prendre les gens là où ils s'en sont et ne pas avoir un discours qui inaudible pour eux, en faisant référence à des choses qui ne leur disaient absolument rien.
Et il y avait une transmission, dans ce cas-là, d'un certain nombre de sens, d'un certain nombre de gestes qui sont symboliquement forts.
Qui faisaient sens et qui étaient recevables pour eux, ce qui était très important. C'est la façon dont c'est reçu par eux et la façon dont eux-mêmes, ils font très attention.
Mais ça a supposé aussi tout un travail méthodologique pour que ça soit accepté d'un point de vue académique. Ce n'était pas seulement au niveau de l'institution de l'Église, mais aussi de l'institution de l'université, où il faut démontrer qu'il y a effectivement une innovation qui fait sens à la campagne.
L'académie était presque plus
ouverte
que, effectivement, l'Église. Bien que dans l'Église, c'est un corps qui est très varié, et l'évêque de Carcassonne, à qui j'ai donné à lire mon travail, a trouvé ça tout à fait intéressant. Parce que j'étais quand même un peu gênée aux entournures d'avoir pris ça entièrement sur moi et de ne jamais avoir pu en parler, sinon très tard, à un prêtre, non pas local, mais de quelques villages à côté.
Vous posez la question de la liturgie ? Du rôle des prêtres aussi, je me rappelle dans votre thèse cette phrase qui m'avait fait un peu sourire, mais il faut l'expliquer, ce harem mystique de l'institution ecclésiale à la campagne.
L'institution, elle peut se maintenir grâce à un harem mystique. C'est-à-dire que par des personnes,
C'est le cléricalisme en deux mots.
Pardon ?
C'est le cléricalisme en deux mots que vous dénoncez parfois ?
Pas uniquement, non. Je peux dénoncer le cléricalisme, mais surtout qui a fait qu'il y a toute une population, et en particulier une population féminine, qui se croit obligée de suivre, qui n'est pas libre par rapport à ce que demande le clergé, enfin, ou par rapport à ce que... on croit... Le clergé n'est pas critiquable par cette... ou on le... critique par derrière, mais jamais en face. Enfin, il y a un dialogue qui se fait mal entre le peuple des chrétiens et son clergé.
Et un peu comme Camus, qui n'était pas reconnu à l'époque parce qu'il était d'aucune obédience. Vous vous situez un peu comme
tout à fait
dans cet entre-deux qui est également innovateur.
Alors, les entre-deux sont toujours mal perçus, parce qu'effectivement, je pense que notre esprit cartésien a besoin de pouvoir cataloguer, classer, ranger, alors qu'il y a une part de nous-mêmes qui transcende tout ça. Et à ce moment-là, il n'y a que la justesse, enfin le sens de ce qui est juste, qui peut nous aider à défendre et à traverser
défendre toute, vos convictions.
L'opacité, oui, en face de l'opacité de l'environnement chrétien.
Et vous aviez une phrase pour conclure cet entretien qui est déjà fini, mais je vous la laisse.
Eh bien, je vois avec plaisir que, à l'époque, je pensais être un peu seule. Et en fait, il y a beaucoup de personnes, et de femmes en particulier, qui commencent à réagir. Et je pense, par exemple, à Anne Soupa.
Oui, voilà. Une fermentation dans l'institution.
Tout à fait, qui donne à réfléchir. Et peut-être que le paysage pourrait changer d'ici quelques décennies.
Bien, merci Clotilde pour votre témoignage, pour vos convictions, en souhaitant longue vie aussi aux associations qui continuent. Et merci aussi à Christophe pour l'enregistrement.